Con toda palabra, con toda sonrisa, con toda mirada, con toda caricia.
À l'air libre, Pascal Jourdana, une série de rencontres promenades, de balades littéraires et de conversations à bâton rompu avec des écrivains, des éditeurs, des traducteurs ou tous ceux qui s'intéressent aux livres et à l'écrit pour réfléchir, flâner ou rêvasser en toute liberté. Bonjour, à l'air libre, installé comme en 2007 sur le Vieux-Port de Marseille au Théâtre de la Criée pour le FID Marseille, Festival International de Documentaire, pour cette nouvelle série d'émissions avec des membres du jury, des différents prix et des réalisateurs invités. Fil rouge de cette série, comme l'an dernier, les relations particulières qu'entretiennent ces invités à cette relation écrit, image, cinéma, livre, mot, écran. Notre invité aujourd'hui, Éric Pellet. Je pense que ça vous concerne particulièrement, cette relation.
Absolument.
Multiple. Éric Pellet, vous êtes né en 1974, avez fait des études, alors différentes études, j'ai vu ça en lettres modernes, en histoire de l'art, en photo, pour finir par être diplômé aux Beaux-Arts de Lyon et aussi en expression plastique en art moderne.
Oui.
Si c'est l'intitulé exact, peut-être que...
Disons que j'ai eu une formation fort longue, ma foi, et à double pendant. D'un côté assez universitaire où effectivement j'ai pu faire lettres, art, mais quand même après spécialisé en photo et cinéma, et de l'autre côté en école d'art, donc effectivement à l'école des Beaux-Arts de Lyon et au Frénois,
d'accord,
le studio national des arts contemporains.
Voilà, donc ce qui vous intéresse justement particulièrement, c'est ce rapport au cinéma de recherche et à l'art contemporain, cette articulation peut-être entre les deux. Sur lesquels on s'attardera sûrement tout à l'heure. Mmh. Vous avez réalisé plusieurs films. Le désastre ne figure pas dans l'image, essai vidéographique en 2002. Le livre des morts, un long métrage en 2003. Un long métrage cinéma, précise-t-on. Anne Moche, qui est un film en 2004, qui est plus qu'un film parce que c'est également deux émissions radiophoniques pour France Culture, une installation à Rotterdam, issue d'une exposition autour d'Andy Warhol. Mm-hmm. Donc on parlera peut-être de ce film, de cet ensemble de choses Anne Moche, c'était en 2004. Mm-hmm. Et puis un autre film dont on parlera peut-être aussi un petit peu plus tard au cours de la rencontre, Conversation dans la montagne. Vidéo expérimentale en 2000, c'est ça ?
Oui, 2000,
Touron,
je crois.
Autour de la rencontre hypothétique Paul Celan-Théodore Adorno.
Tout à fait.
Là, je pense que ça nous concerne directement. Uh-huh. Vous êtes au FID cette année pour un film présenté en compétition française, Noir écran. Uh-huh. Un film composé à partir du texte de Jean-Marie Glaise, qu'on connaît bien à Marseille. Film à venir, sous titre Conversion, paru aux éditions du Seuil. Alors, on va peut-être commencer par ça, Éric Pellet, ce n'est pas la première fois que vous travaillez ensemble avec Jean-Marie Glaise. J'ai vu que vous avez déjà ensemble travaillé sur un court-métrage, Il entre dans le blanc, alors le noir d'un côté, le blanc de l'autre.
Alors finalement, c'est étrange que vous ayez ce titre, parce que ça a été un des titres. Mais c'est pas le titre final, c'est-à-dire que c'est une des phrases clés,
oui.
Mais le titre final c'est Objet Lumière, ce qui finalement fait aussi relativement programme par rapport à, enfin voilà, notre premier film étant Objet Lumière, on passe ensuite à un noir écran, voilà, ça a été pensé dans une continuité, même si les deux objets sont très radicalement différents.
Alors peut-être parlez-nous de cette première collaboration avec Jean-Marie Glaise, comment vous avez travaillé ensemble, comment vous êtes rencontrés et que vous avez eu envie de travailler ensemble déjà.
Ben alors, déjà la rencontre elle est bien avant ça, on s'est rencontrés à vrai dire au couvent de la Tourette, construit par Le Corbusier, autour finalement, enfin il y avait déjà un créneau parce que c'était quand même à l'occasion de rencontres autour de la poésie, enfin, voilà. Donc il y avait un week-end entier là-dessus, Jean-Marie Glaise participait, et moi à cette époque je travaillais là-bas au Saint-Thomas-More. Voilà, et après, à Lyon, je vis tout près de l'école normale supérieure où il enseigne et où il a créé le centre d'études poétiques. Voilà, donc j'ai été dès le début un spectateur assidu. Et donc voilà, donc après, ça c'est. Et au fil de cette amitié, et moi de l'habitude de la lecture de ses livres, il y a eu un vrai désir commun de, voilà, d'essayer de croiser moi ma démarche de cinéaste et lui celle d'écrivain. Et donc le principe de ce premier film qui s'appelait Objet Lumière en 2006 était un peu ambitieux dans la mesure où je partais d'un groupe de 4 livres. Qui formait alors une tétralogie seulement, ces 4 livres étant L'aimant, Le principe de nudité intégrale, Néon et Les chiens noirs de la prose, dont Au jour d'aujourd'hui, Film à venir est le cinquième volet. Voilà. Et Jean-Marie lui-même dit que ça risque pas de s'arrêter là, on va arrêter de les compter en termes de tétralogie ou pentatologie, je ne sais même plus comment on dit, ou de 5. Et le principe a été de cristalliser un objet très très court à partir d'un choix de fragments que moi j'ai effectué à travers les 4 livres. Donc c'est moi qui ai opéré les fonctions. On a ensuite enregistré avec Jean-Marie de manière un petit peu plus large. Mmh. Et j'ai refait un montage à partir de ça. J'ai dû faire le film dans l'urgence parce qu'il était prévu pour un événement qui s'appelle la Poésie Nuit, qui est un festival beaucoup sur ces questions d'images et de poésie à Lyon. J'ai pris un parti pris assez radical, qui en faisait un objet assez fort, assez radical, mais qui pour moi m'avait un petit peu frustré dans le sens où je sentais qu'il y avait il y aurait eu beaucoup plus à déplier au sein de ces livres et au sein même d'un film. Moi-même ça c'était que le début, l'embryon de la source d'image que ça avec laquelle j'avais envie de faire entrer en écho ça. Mais voilà.
Alors justement, aussi bien pour ce film dont vous venez de parler que pour Noir Écran, ces images surgissent comment? Parce qu'elles surgissent là dans ce film. Et ça m'intéresse de savoir pour vous d'où elles viennent à partir du moment où on voit bien que vous travaillez d'une matière littéraire au départ, d'un texte. Donc comment les images surgissent à partir de ce texte?
Comme vous l'avez un peu rappelé dans votre introduction, le rapport au texte, à la pensée, à la littérature, a toujours été assez fondamental dans mon travail, même si des fois ça passe dans une espèce d'arrière-plan. Mais en tout cas, ce qu'il y a eu de fondamental pour moi dans ce travail, c'est que je ne pars pas de l'écriture pour aller fabriquer des images. Oui. C'est-à-dire que c'est à la base d'une vraie affinité profonde entre mon propre rapport au monde et la manière dont je peux le cristalliser en images le même principe chez Jean-Marie. Et donc c'est grâce à ce parallélisme et à cette affinité de source que je me suis dit qu'une rencontre et un croisement étaient possibles, ou une conversion du film en livre, du livre en film, et donc tout le principe c'est que donc à quelques exceptions près toutes les images préexistent au livre.
Il y a une sorte de stock d'images.
Voilà, exactement, c'est ça. En fait, certaines images peuvent avoir 10 ans, comme d'autres 6 mois, mais le principe c'est que c'est des images la plupart du temps créées hors de tout projet précis. C'est l'espèce de journal filmé de traverser des apparences et de rapport au monde que les cinéastes font la plupart du temps. Et puis, dans ce stock énorme, des choses, par le truchement de la lecture des livres, des choses refont surface, remontent, sont l'objet d'une espèce d'archéologie, d'un réassemblage, comme dans un chutier improbable où au départ il y a une espèce de grands caractères hétéroclites de tout ça, et avec l'idée que quelque chose peut peut-être ramener tout ce matériau hétérogène vectorisé par le texte et par les coupes et la sélection que je vais refaire dans le texte, se dire que voilà, à l'arrivée, c'est peut-être une alchimie peut avoir lieu. Ouais. Et donc c'est ensuite une espèce de work in progress sur ça, sur réajuster le texte, trouver des images encore plus justes ou encore plus éloignées ou encore plus proches, parce que des fois ça joue aussi de la proximité des images. Et pour moi c'est valide dans le sens où ça n'a pas été voilà, il y a toujours un décalage étant donné que les images n'ont pas été oui. programmées par oui. le livre et par le texte.
Elles ont leur propre histoire. Vous parlez d'archéologie, cette référence à l'histoire enfouie, je dirais, elle est présente à l'audition du texte dans ce film, l'audition du texte de Jean-Marie Glaez et à la lecture qu'on pourrait en faire aux éditions du Seuil, puisqu'il est question de rapport entre un père et un fils, qu'il est question de transmission, qu'il est question du corps, du corps après la mort. Donc il y a un certain nombre de choses qui renvoient comme ça à ce que peut être l'histoire individuelle ou une histoire plus collective. C'est aussi un matériau à partir duquel vous travaillez.
Oui, absolument. Moi, j'ai un rapport très fort à l'histoire. Et en ça, j'ai une vraie proximité avec Jean-Marie Glaez. C'est que c'est aussi, comment dire, c'est la cristallisation dans des lieux et la manière dont j'ai pu filmer des lieux qui, à un moment donné, pour moi, arrive à arrimer quelque chose de l'expérience personnelle. Donc c'est le rapport au lieu et toute la stratification de mémoire des lieux, etc. C'est quelque chose que j'ai longtemps travaillé. Et effectivement, moi-même, le rapport que je peux avoir face à des lieux ou traversant des lieux, parce que c'est une espèce d'avancée permanente, ce film et ce livre, on va vers un point de passage ou un point d'accès, même s'il est, il est un peu mystérieux. En tout cas, il y a une espèce de quête comme ça, acharnée, mais dans le réel. Et pour moi, c'est une matière documentaire. C'est-à-dire qu'effectivement, à chaque fois, j'ai un lien fort avec des lieux qui sont en même temps dans un parfait anonymat pour tout le monde. Mais là, les images gardent une trace de l'expérience qu'ils ont engendrée. Et de la même manière que Jean-Marie Glaez, des lieux dans leur description, leur requalification, leur caractère générique et leur description, leur institution, tout ça, c'est des phénomènes d'écriture à l'œuvre dans ces cinq livres, ouais. cette huit de cinq livres.
Effectivement, elles font souvent trace. Ces images qui passent et qui s'impriment noir sur fond blanc ou l'inverse, elles s'impriment même sur la rétine un petit peu. Les lieux ne s'additionnent pas, c'est une parole de Jean-Marie Glaez qu'il lit, puisque c'est lui qui lit le texte ou qui dit le texte, je ne sais pas s'il le connaît par cœur. Évidemment, ça fait référence à ces lieux dont vous parlez. On peut aussi se poser la question de savoir si c'est d'un côté le lieu du cinéma, de l'autre côté le lieu du poème écrit, qui ne s'additionne pas et qui apporte chacun une pierre différente ou qui se mêle. Je ne sais pas comment vous pouvez interpréter ça.
Oui, tout à fait. De la même manière que on a voulu à la base quasiment travailler ce paradoxe de faire devenir un film à partir d'un livre qui s'appelle Film à venir, ce qui est une espèce de paradoxe, et le film ne s'appelant pas Film à venir mais Noir écran, disons que ça c'est très bien dans la mesure où c'est une vraie dérivation, c'est une vraie conversion, c'est un devenir autre du livre, et pour Jean-Marie Glaez ça a autant de sens que le livre lui-même. C'est une espèce de ramification comme ça qui s'étend, et ça a autant de validité dans son travail et dans le rapport à sa propre voix et à la voix de l'écrit que tel que le livre a arrêté ça à un moment donné. Il y a un ordre et il y a une justesse des choses, mais le film se permet de reconfigurer ça, d'en donner autre chose à voir et à entendre. Mais on va aussi ailleurs du film. C'est aussi une espèce de sortie du film, du sortie du livre. Oui. Voilà. C'est un moyen de sortie du livre, parmi tant d'autres. Mais qui en propose justement pas un équivalent, pas une adaptation. Et moi, je considère ça que par-delà ce que c'est, et par-delà même l'écriture de Jean-Marie Glaez qui peut des fois se frotter à un certain iconoclasme, à travailler sur justement la fascination des images ou le renversement des images. C'était justement une matière même à travailler pour moi très fertile et où je voulais en venir.
Vous avez utilisé plusieurs fois le mot cristallisation,
oui,
et même alchimie,
oui,
à
oui,
un
oui,
moment.
Tout à fait.
Et j'ai l'impression que c'est de ça dont vous voulez parler, une transformation en quelque chose d'autre, une matière qui, par son traitement à l'image, ou plus exactement par le traitement d'une certaine partie du texte avec l'image, se transforme en quelque chose d'autre.
Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est ça, c'est vraiment un travail de la matière, dans le sens où à la base, les images sont peu de choses, séparées en petits fragments comme ça, et c'est justement leur réunion et le travail vers un montage de plus en plus... même pas juste, j'allais dire. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui se crée, que je sens venir, comme ça, une montée de la forme à travers le fragment du texte. Et à ce moment-là du travail, les enregistrements ont été faits, donc le montage du texte par moi a été fait aussi. Et c'est sur cette colonne vertébrale du texte que les images vont s'agréger ou au contraire être poussées, être foulées. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il y a des passages qui ne peuvent que rester noirs, réellement dans un écran noir. Oui. Parce qu'il y a des choses qui repoussent l'image, mais ce qui ne veut pas dire que c'est un infigurable non plus.
Est-ce que l'inverse a été le cas? Est-ce qu'il y a des images qui ont repoussé le texte?
Ça, de toute façon, c'est tout un phénomène d'aller-retour assez étrange, parce que dans le livre lui-même de Germain Iglèse, on peut dire que figurent des images, ou sont décrites des images, ou même sont décrites des séquences de films.
Il y en a d'ailleurs dans le livre,
et il y a aussi des photographies, des polaroïdes, et même ce genre de choses, ou des manières de faire image. Enfin, il y a beaucoup de manières de faire image et beaucoup de stratagèmes et de dispositifs qui font image dans le livre, et en même temps qui repoussent l'image. Et donc le principe, c'est qu'il y ait aussi dans le livre une partie de cette reprise, enfin tout autant de voilà comme des citations, mais toujours reprises et transposées, et qui réagissent différemment, avec effectivement un côté émulsion sans se dire qu'on va faire de l'or avec de la boue, hein. Mais bon, plus ça va et plus une forme a la possibilité de monter dans cet espace que va instituer le film.
Jean-Marie Glaise lit tout au début du film, je ne sais pas si c'est le début du livre, un passage significatif justement sur ce qui existe dans le noir de l'image, au moment où le film se casse peut-être, ou le moment où on voit les rayures sur le film, et qu'il se passe des choses à cet endroit-là, dans ce noir qui est devenu le titre du film, non pas le titre du livre.
Justement. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est effectivement la scène inaugurale du film, du livre, pardon. Et on peut dire comme ça que le noir écran, qui donne son nom au premier chapitre du livre, c'est la figure la plus fascinante et la plus obsédante du livre, quasiment. Donc il y a toujours ce retour de l'image, ce retour du noir possible, et c'est de ce fond du noir que peuvent émerger les images. Moi, c'est pas du tout l'idée d'un infigurable, mais il y a un vrai questionnement sur la représentation, et d'autant plus une représentation collée à la littérature, adossée au texte, mélangée au texte à ce point. Donc il n'y a pas d'évidence là-dedans, et il y a énormément à inventer, même si c'est un terrain longuement travaillé dans le cinéma, mais le rapport image-texte, à mon avis, c'est encore quelque chose dont on fait que amorcer un travail possible. Enfin, en tout cas, il y a encore des choses inouïes à trouver, pour le coup. Enfin, voilà, faire voir et faire entendre des choses différemment.
Faire entendre, justement, c'est peut-être ce que vous essayez de faire, faire entendre autrement le texte, qui est déjà lu peut-être autrement par l'auteur, qui a une certaine distance, je dirais pas neutralité, parce que sa voix est loin d'être d'être neutre. Elle est même parfois légèrement amusée, peut-être. Alors que ce qui se dit sont des lieux d'enfermement aussi. Hein. J'ai dit tout à l'heure, il y a le rapport du corps, la disparition du père, comment c'est vécu par le fils qui le retrouve. On ne va pas raconter tout ce qui se passe parce que c'est l'intérêt aussi d'entendre ce texte peut-être pour la première fois. Mais justement, cette distance fait qu'on entend le texte autrement. Mmh. Et vous, en faisant jouer ses significations, son sens avec l'image, vous faites encore entendre autrement.
Oui, exactement. Oui, c'est l'idée bien connue de Godard. Hein, c'est-à-dire que c'est la troisième image, la fabrication d'une troisième image. C'est-à-dire que là, c'est pas deux images additionnées. Enfin, ça marche aussi dans le montage, hein, parce que le montage image est pour le coup, lui, très travaillé, même si il est sur une base intuitive. Mais c'est vraiment le postulat que, au-delà du fait que c'est... pour nous, c'est quasiment un manifeste de non-illustration poétique.
Oui. Bon.
Et malgré ça,
c'est un poème.
Voilà, exactement. Et malgré ça, voilà, ça existe, c'est un film, et il se coltine à ça, qui est une matière pas simple. Mais voilà, c'est dans l'idée de se dire que cette image collée sur ce fragment de texte va pouvoir donner autre chose et emmener ailleurs à la fois l'image et à la fois le texte. Et comme ça, on est dans une espèce d'aller-retour où finalement on est dans une surprise permanente dans ce que Jean-Marie, dans ce que moi je peux voir de son texte et vice-versa, c'est-à-dire dans
voir,
dans
ce que d'ailleurs pas entendre.
Voilà,
voir,
exactement, ouais. Exactement. Et dans ce que moi je peux aller découvrir dans ses textes et les tirer à moi pour fabriquer cet objet.
Jean-Marie Glaisse parle d'une poésie objective quand il parle de son travail poétique.
Oui, tout à fait.
Il a beaucoup théorisé hein, sur son travail, sur la poésie contemporaine, sur
absolument.
Son rapport à la littérature.
Oui.
Est-ce que vous rassembleriez ces deux termes de la même façon pour votre travail
Déjà, je ne sais pas si c'est la notion de poésie objective, parce que là, ça nous lance vers les objectivistes américains, enfin, qui sont une très grande influence, et pour moi et pour Jean-Marie Glaisse. Hein, c'est peut-être la notion de littéralité, dans le sens où pour moi, la littéralité, en termes d'image, ça a directement une résonance en termes d'analogie. C'est-à-dire que, a priori, le monde est analogique, et en filmant le monde, on a un rapport à l'analogie. Voilà. Et justement, Claude Royer-Journoux a une phrase à laquelle je repense souvent, c'est « Échapperons-nous à l'analogie ?» Voilà, donc, quelque part, dans le film, il y a forcément... voilà, ça aurait été, à mon avis, malhonnête de ma part de vouloir gommer systématiquement les vraies analogies entre texte et image, parce que voilà, justement, il s'agit de repartir de là pour mieux le combattre, ou le subvertir, ou le faire amener ailleurs, l'emmener ailleurs. Et voilà, bon, et donc... L'idée de littéralité, moi, je la renvoie du côté de, pour mon travail propre, du côté du document, du côté du rapport au réel, du côté du documentaire. Donc oui, et en même temps, c'est à la fois fiction, c'est cette suite d'actes et cette suite d'événements qui se passent, c'est de la fiction et que je m'approprie et dont je fais du documentaire quasiment.
Oui.
Mais bon, ça, c'est très complexe, hein, je crois qu'on peut... Mais, et pour revenir à la question sur la voix de Jean-Marie Glaisse, ce qu'il y a de très bien... pendant les sessions d'enregistrement pour lui, c'est que ça lui permet la qualité et la manière dont je l'enregistrais, extrêmement proche, extrêmement quasiment dans sa bouche, faisait qu'il pouvait développer une voix intérieure, une voix vraiment qu'il n'a pas besoin de projeter. Donc lui, c'est tel qu'il entend le texte et tel qu'il ne peut pas le donner dans des lectures publiques, par exemple.
Oui.
Et c'est pour ça qu'on arrive à une justesse pour moi, et parce que tout simplement parce que c'est la voix de l'écrit. C'est-à-dire que moi, maintenant, dès que je le lis, je ne peux pas décoller la lecture des livres de sa voix. Donc pour moi, il y a une espèce de, voilà, d'identité, d'identification totale entre voix et texte. Et le principe, c'était, j'essayais de, voilà, de mettre à l'image cette voix de l'écrit.
C'est intéressant ce que vous dites sur la voix de l'écrit, puisqu'on s'était déjà rencontré avec Jean-Pierre Rehm sur cette thématique de comment on peut rendre à l'écran la posture de l'écrivain, le fait d'écrire. On peut filmer un peintre en train de peindre, à la limite, un musicien en train de faire de la musique, on le voit à l'œuvre, je dirais, c'est à peu près possible. Pour l'écrivain, c'est difficile. Par contre, ce que vous dites sur la voix de l'écrit et cette façon d'entendre autrement la voix intérieure de l'écrivain qui lit, mais qui est presque dans une posture d'écrivain aussi à ce moment-là, je trouve ça... C'est assez intéressant.
Oui, oui, oui.
Peut-être et pas le rendre à l'image, mais au son.
Tout à fait. Et je dirais que la réalité de l'écriture, elle est là. Elle n'est pas dans quand vous nous faire croire qu'en filmant un écrivain en train d'écrire à son bureau, on filme l'écriture. Enfin, voilà, je crois que c'est autre chose. Et qui est ailleurs de l'adaptation telle qu'on la considère habituellement aussi.
Alors, pour terminer, parlons de cet autre film que j'ai évoqué tout à l'heure, Conversation dans la montagne, qui date de 2000. Donc, cette rencontre, alors là aussi, ce sont des écrivains, des philosophes, Paul Celan et Théodore Adorno, qui ne se sont pas rencontrés, mais qui auraient pu se rencontrer dans les Alpes suisses.
Exactement.
Et à partir de ça, vous avez, à partir du texte que Celan écrivit, vous avez réalisé un film.
Oui, tout à fait. Effectivement, il y avait eu comme une espèce de rencontre manquée, qui avait beaucoup travaillé Paul Celan, au point qu'il en écrivait un texte qui est pour moi extraordinaire, qui s'appelle « Conversation dans la montagne ». Et... Bon, j'avais fait plusieurs travaux sur Paul Celan, que j'aime énormément. Et l'idée, c'était une idée un peu folle, c'était de se dire que justement, j'allais pouvoir mettre des images aussi sur ce texte. Bon, alors, j'ai réalisé le pari dans la mesure où j'ai vraiment enregistré in extenso le texte. D'ailleurs, en le faisant retraduire par un ami traducteur et écrivain. Donc, en me séparant des traductions existantes, déjà, pour essayer de le déplacer encore ailleurs, au plus près de ce que moi je voulais, donc effectivement aussi vers une traduction très littérale. Et ce qui est étonnant, c'est que bon, là on est à Marseille aujourd'hui, et ce film, je l'ai tourné à Marseille, si je puis dire, sur les îles du Frioul. Donc là, à 5 km d'où on est en ce moment.
Par analogie,
exactement. C'est-à-dire que l'idée, c'était justement que c'était pas en allant dans les Alpes suisses. À Engadine que j'allais pouvoir chercher quelque chose de ça, mais tout d'un coup il y a eu c'est ce que j'appelle des collisions, enfin voilà, c'est le moment où quelque chose peut vraiment faire rencontre et créer quelque chose de voilà d'inédit.
Bien, Eric Pollet, merci beaucoup, bonne chance pour votre film. Il est présenté en avant-première mondiale,
oui.
En compétition française durant cette semaine au Film Marseille.
Merci beaucoup.
À bientôt.
Merci à vous.
Con toda palabra, con toda sonrisa, con toda mirada, con toda caricia, me acerco.